Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Merci d'écouter RMC, merci d'écouter Génération After avec Kevin Diaz, Thibault Leplat et Sofiane Zouaoui. On est ensemble jusqu'à 22h à 21h. Lyon au programme, appelez-nous supporters de l'OL. Un avis tranché à venir de Sofiane. On parlera également du boycott Qatar 2022 avec notamment des annonces en pagaille de boycott ici en France, d'acteurs, d'anciens footballeurs notamment, Philippe Lam, Eric Cantona. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec eux quant à ce boycott au Qatar. D'abord, messieurs, j'accueille un entraîneur qui connaît un succès foudroyant en Ligue 1. Personne ou presque ne le connaissait il y a encore 3-4 mois. Pourtant, il a été directeur du centre de formation de Lorient pendant 10 ans, puis il était passé par Rennes avant. Une carrière modeste en Ligue 1 à Rennes, arrêté à 27 ans. Régis Lebris, entraîneur de Lorient, est avec nous ce soir. Bonsoir Régis.
Bonsoir.
Salut Régis. Vous ne m'en voudrez pas pour le carrière modeste de joueur?
Non, il n'y a pas de problème avec ça.
Bon, alors sachez qu'autour de la table, il y a Thibault Leplat, qui est votre meilleur attaché de presse, peut-être meilleur que celui que vous avez encore à Lorient, qui a parlé de vous dans ses termes la semaine dernière sur RMC. C'est ça, vous, on écoute.
C'est une sorte de mélange entre Gourcuff et Klopp, quoi. C'est un peu comme Mourinho, mais en termes de qualité intrinsèque, on a un type qui est pour moi du niveau de Pep Guardiola.
N'en jetez plus, Régis, ça vous plaît ou pas?
Je ne devrais pas le savoir, Régis, je ne devrais pas savoir ce genre de choses.
Oh, ça me plaît, je ne sais pas, enfin, on parle là de référence à l'échelle internationale, donc moi. De mon côté, je fais mon petit bonhomme de chemin, je découvre la Ligue 1, donc les comparaisons, elles sont difficiles à ce niveau-là.
Bon, le début de chemin est magnifique, Régis, hein, troisième de Ligue 1, je le disais, 19 points sur 24 possibles. Comment vous le vivez personnellement, ça, ce début de saison?
Bon, c'est beaucoup de bonheur, hein, de pouvoir, déjà avoir la possibilité d'exercer ce métier dans un club comme Lorient, donc ça c'est la première chose. Ensuite, de pouvoir démarrer de cette manière-là avec les résultats qui sont les nôtres pour le club, pour les joueurs, pour les fans, tous les supporters du FC Lorient, c'est avant tout, je crois, une joie partagée.
Est-ce que vous êtes surpris par ce que produit votre équipe après 8 journées sur le terrain en Ligue 1?
Alors, je m'étais pas vraiment projeté sur le comportement de l'équipe, donc je sais pas si je peux être surpris. En tout cas, j'aime ce qui se passe du point de vue de l'expression des joueurs, de la cohésion qui se dégage de l'ensemble, de l'énergie, de la prise d'initiative. Et puis, finalement, les résultats sont au rendez-vous. On sait que cette dynamique de résultats peut tenir quelquefois à des petits détails. Mais en ce qui concerne le comportement des joueurs, ce qu'ils engagent au quotidien, ça... Je l'espérais, puis il se produit, et puis quelque part, ça se concrétise en termes de résultats. Donc pour nous, c'est tout bonus.
La question qu'on va vous poser aussi pendant cette demi-heure à votre compagnie, Régis Lebris, c'est comment vous avez réussi à emmener dans votre projet cet effectif de Lorient qui a terminé 16e la saison dernière. Il y a eu quelques retouches avec 36 points. Là, ils ont 19 points après 8 journées. Hein. C'est plus de la moitié des points la saison dernière en 8 journées. Thibaut.
Ouais, non, il y a beaucoup de choses à dire sur le travail de Régis. J'espère qu'on en verra plus, quoi, encore. Ce qui est très étonnant quand on voit cette équipe, c'est qu'on a le sentiment qu'elle n'est pas du tout en sur-régime, qu'elle s'est appropriée des principes. Et moi, ce que je voulais demander à Régis, c'est toi, comment tu fais pour que ces joueurs-là adhèrent à tes idées? Je sais que t'es pas un adepte, par exemple, de la méthode frontale, quoi.
Non, bon. Mon idée principale, celle partagée par l'ensemble du staff, c'est qu'on croit en la responsabilisation des joueurs. Donc on pense que c'est à partir du moment où ils se sentiront pleinement dépositaires de ce qu'ils réalisent sur le terrain qu'ils seront les plus performants. Et donc l'accompagnement qu'on mène avec eux, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions autour du projet de jeu, des expériences de jeu qu'on vit, et les matchs amicaux de début de saison sont très riches pour ça. Pour échanger sur eux ce qu'ils peuvent penser, les connaissances qu'ils ont sur le jeu et qu'ils peuvent penser des situations qu'ils vivent. Et nous, en tant que staff, en tant que coach, les amener à se questionner sur ce qu'ils réalisent, réussir à quelque part cristalliser ce qui fonctionne bien pour en faire des éléments de projet de jeu et qu'on saura réutiliser plus tard, et questionner ce qui fonctionne pas bien et avoir surtout leur avis par rapport à ça, de manière à ce que derrière ça serve de, enfin aussi de base pour corriger les éléments qui doivent l'être.
Donc, je me souviens concrètement, comment vous responsabilisez les joueurs justement? Si vous avez un exemple à nous livrer.
Bah en fait, on utilise énormément la vidéo en feedback de match. Donc on peut avoir, je ne sais pas si c'est classique, mais on peut entendre assez régulièrement quelque chose d'assez directif, c'est-à-dire un coach qui donnerait son avis sur la situation qui vient d'être jouée. Et puis ça fait office de principe à respecter par la suite. Nous, ce qu'on réalise ensemble, c'est que donc ces différentes images de matchs qu'on a joués, surtout sur les premiers matchs amicaux, on les discute. Et l'expertise du staff, c'est de réussir à sortir ce qui est prioritaire dans un premier temps et qui va nous servir de fil conducteur à construire la progression de l'équipe durant la saison. Donc au démarrage, on parle beaucoup, par exemple, de défense placée, puisqu'il faut structurer cette défense pour qu'elle puisse donner confiance à l'équipe et qu'à chaque fois que l'équipe adverse qui est en possession du ballon nous attaque, qu'on ne se sente pas en permanence en difficulté ou sur la corde raide ou sur une forme de fébrilité qui s'installe et qui contamine l'ensemble du jeu de l'équipe. Donc il s'agit donc pour le staff de réussir à sortir ce qui est important à un instant T et puis de construire une progression au fil des expériences de jeu. Et il y a énormément d'échanges autour des images de ces matchs, en fait.
Kevin.
Bonsoir coach. Bonsoir. Moi je trouve ça bien sûr très intéressant ce que vous parlez, ce dont vous parlez là, avec j'ai noté plusieurs mots: énergie, initiative, expérience.
Je précise que Kevin est en formation entraîneur actuellement. Ouais. Voilà. Donc il prend des notes. C'est la vérité.
On va pas trop en dire coach.
C'est de l'expérience en effet. Et moi j'ai une question, parce qu'ici à l'After on parle souvent d'abord Thibaut en est un spécialiste, du dogmatisme ou du pragmatisme. En gros, c'est, si je résume vulgairement, c'est Didier Deschamps contre Guardiola. Et est-ce que vous,
pas si vulgaire,
est-ce que vous avez par exemple un système de jeu préférentiel, et ou est-ce que vous faites partie de ces entraîneurs qui vont plutôt s'adapter aux joueurs qu'ils ont en face d'eux pour, pourquoi pas, mettre un système avec deux attaquants, si vous avez deux très bons attaquants, ou si vous restez sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, avec des joueurs qui doivent aussi s'adapter à votre façon de penser le foot, ou même de l'entraîner, parce que souvent, quand on me disait, ah oui, mais Mauricio Pochettino, pourquoi il joue pas à 3? Mais Mauricio Pochettino, il a toujours joué à 4, en 4-3-3. Peut-être qu'il y a des systèmes qu'un entraîneur ou un autre maîtrise moins, savent moins bien faire travailler.
Oui, il y a un peu, différents niveaux de réponse. Le premier, c'est que, il y a une histoire, c'est Lorient autour du 4-4-2, et pour l'avoir
de expérimenté, Christophe Gourcuff, c'est ça.
Ouais, c'est bien ça.
Inspiré de ça, qui?
J'arrivais de Rennes, j'avais beaucoup pratiqué le 4-3-3, qui était le système qui était beaucoup utilisé à Rennes à l'époque en tant que en formation. Et arrivant à Lorient, donc bien évidemment, je m'étais plié au 4-4-2 pour rentrer dans la lignée de tout ce qui se jouait au club. Et j'ai pu découvrir à partir de ce moment-là, dans le 4-4-2, les intérêts aussi de ce système-là. On regarde la formation des joueurs, de ce que ça mobilise en termes d'intelligence collective. Et donc, c'est aujourd'hui dans l'histoire du FC Lorient, et je crois qu'on a à respecter une forme d'identité, parce que ça construit un socle sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Et donc le 4-4-2 en défense placée, par exemple, c'est un système que moi j'utilise beaucoup. Alors c'est pas le seul que je peux utiliser, mais on sait que les joueurs, on va beaucoup le travailler, les joueurs le maîtrisent et on peut toujours y revenir à tout instant. Mmh. Et ça sert de référentiel pour l'ensemble des sous-systèmes qu'on a ensuite à traiter. Et pour autant, ensuite un match peut commander d'évoluer différemment parce que par exemple, ce 4-4-2 en défense placée n'est plus du tout opérationnel. Et s'il n'est plus du tout opérationnel, on ne va pas rester sur son idée, je dirais, qui est liée à l'histoire, l'identité du club. Il faut répondre à la problématique du match. Et il faut gagner ce match, ou en tout cas pas le perdre, si l'équipe adverse est en train de nous déstabiliser. Donc ça, c'est un deuxième niveau de réponse. Et le troisième niveau de réponse, c'est les joueurs qu'on a. Et on peut effectivement avoir des joueurs qui ne correspondent pas à ce système et puis arriver à quelque chose de plus fonctionnel, parce qu'à l'arrivée, on sera jugé. Et puis c'est aussi la réalité de cette compétition, il faut gagner des matchs.
Régis Lebris, entraîneur de Lorient, est avec nous dans Génération After. Oui. Sofiane a une question.
Oui, bonsoir coach, bravo pour votre début de saison très intéressant à suivre. Moi j'ai une question individuelle, je sais que les coachs préfèrent parler de manière collective, mais sur ce début de saison, l'impact qu'a Enzo Lefebvre sur le jeu est impressionnant. Moi j'aimerais voir avec vous sur son positionnement, parce que parfois vous l'utilisez au cours d'un match différemment. Ça peut être à la première relance en numéro 6, on pourrait appeler ça comme ça. Sinon, il est parfois un peu plus haut sur le terrain, en numéro 10, dans les interlignes, notamment pour créer le danger. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de cette palette de rôles que vous lui donnez, comment vous le responsabilisez et comment vous utilisez cette palette de rôles par rapport à l'adversaire et par rapport à vos demandes. Parce que je trouve ça très fort. C'est un joueur très intéressant de base, mais je trouve ça très fort.
Mais pour ce qui est d'Enzo, enfin, en premier lieu, c'est un joueur assez, assez polyvalent sur ses possibilités d'expression. Donc, pour l'avoir eu en formation, je crois qu'il a joué à peu près tous les postes du milieu et d'attaque. Il a même joué en faux neuf. Donc il est dépositeur d'une certaine culture de jeu et il maîtrise quasiment tous ces rôles-là. Donc évidemment avec ses caractéristiques de joueur. Ensuite, là aujourd'hui, sur son expression enfin, en Ligue 1, il a clairement les deux possibilités dans ce 4-2-3-1 ou ce 4-4-2 d'être soit dans les 2-6. Donc il est capable de défendre. Et ça, c'est malgré son côté un peu chétif. Il a une grande qualité en défense placée. Il peut rentrer dans les duels, il peut intercepter, il court beaucoup. Il a un bon sens aussi de l'anticipation et des relations défensives. Et par ailleurs, il a une touche créative, c'est-à-dire qu'il peut prendre beaucoup de ballons et créer le déséquilibre. Donc avec la maturité qu'il est en train de trouver aujourd'hui, il perd. Alors c'est un joueur qui peut prendre beaucoup de risques, mais justement cette maturité l'a progressivement façonné. Ce qui fait que quand il vient plus bas maintenant, il arrive à ajuster le curseur risque et à perdre moins de ballons qu'il ne perdait quand il était plus jeune. Donc, ce qui fait qu'il peut être efficace en soutien d'un attaquant, donc plus haut derrière les lignes de pression des milieux adverses. Et il peut être aussi maintenant efficace, très efficace dans les premières sorties de balles, avec un taux de perte de balles qui s'est fortement réduit avec le temps.
Régis Sebrice, que Jolorion est avec nous, on va prolonger d'un quart d'heure encore. Qu'est-ce que c'est bon d'écouter un entraîneur qui nous parle de manière pédagogique, qui nous explique son projet de jeu.
Team Régis,
dans un instant, en plus, c'est aussi un principe de Génération After et de l'After en général. Des supporters de Lorient vont vous poser des questions. Il y a beaucoup de messages également sur Direct Studio. J'ai par exemple Gwenel qui nous dit bonjour Régis, quand est-ce que tu signes un contrat de 15 ans à Lorient, s'il te plaît. Bon, c'est en train de s'emballer, hein. J'imagine qu'il faut rester extrêmement calme aussi avec Lorient. On va prolonger dans un instant avec vous, Régis, dans Génération After.
Orange, donc
tout à fait. Et oui, il est orange. Alors Kevin, forcément. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC. Merci d'être avec nous 20h49 avec Sofiane Zouaoui, Thibault Leplat et Kevin Diaz. Notre invité ce soir, l'entraîneur du FC Lorient, 3ème de Ligue 1, Régis Lebrice. Merci encore d'être avec nous. Tiens, une question d'actualité, puisque je sais que vous faisiez partie aujourd'hui, Régis, des 11 entraîneurs invités par la direction technique de l'arbitrage. Comment ça s'est passé d'abord après cette saison, ce festival de cartes rouges, 34 seulement après 8 journées? Est-ce que ça a été évoqué? Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi on en est là aujourd'hui?
Oui, ça a été évoqué. C'était une belle session d'échange en dehors des micros et des caméras. Donc c'est important de pouvoir se dire les choses, quelques-unes qui peuvent fâcher là, par ailleurs. Il y a eu justement, c'était très pédagogique d'un côté la parole des entraîneurs et de l'autre de celle des arbitres avec eux aussi leurs contraintes et leurs difficultés, notamment la gestion du VAR. Donc je trouve que ça avait toute sa place pour rapprocher les acteurs.
Comment ils expliquent alors cette recrudescence de cartons rouges après 8 journées là ?
Ils ne nous l'ont pas vraiment expliqué dans le détail. Il y a des choses qui. Enfin, il y a des cartons qui méritaient de l'être. Après, ils reviennent aussi sur l'idée qu'il y en ait quelques-uns qui ne soient pas justifiés.
D'accord. Ah, Kevin.
Ouais, moi, coach, j'ai une autre question. Vous avez été très longtemps donc, directeur de centre de formation. Vous avez entraîné beaucoup d'équipes de jeunes, que ce soit à Rennes ou à Lorient. En tant que jeune entraîneur, en tant que consultant, on entend beaucoup parler de ces nouvelles générations.
Oui.
Comment vous faites, vous, pour les appréhender? Apparemment, vous êtes dans l'échange.
Tu veux dire nouvelle génération, on dit souvent certains entraîneurs qui n'écoutent pas, qui écoutent moins, qui n'est pas intéressé par le jeu.
C'est une génération qui est connectée, c'est une génération qui a connu beaucoup de divers et variés en termes de. C'est la génération des écrans, des réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup de divertissement pour eux. Et aujourd'hui, comment vous faites pour. pour les faire se concentrer pendant 90 minutes ou 2 heures d'entraînement, pour la séance vidéo. Voilà, vous qui devez avoir cette expérience, pour les appréhender dans cet échange, comment vous les définiriez ?
Je ne sais pas s'ils sont si différents de ceux de notre génération, de nos générations précédentes. Enfin, ce qui reste vraiment là au milieu de tout ça, c'est la passion du football. Donc les garçons, ils aiment le foot. Mais s'ils sont arrivés là dans le secteur professionnel, avec toutes les contraintes que ça exige, la concurrence antérieure dans les centres de formation, voire dans des parcours alternatifs, c'est qu'il y avait quelque chose qui les animait. Ce moteur, c'est le jeu et le plaisir de jouer au football avec ses amis ou maintenant ses partenaires. Donc en premier lieu, il y a ça au centre de débat, il me semble. Et le deuxième niveau, c'est la responsabilisation, comme je l'évoquais tout à l'heure. À partir du moment où on respecte le joueur dans sa capacité à prendre des décisions sur le terrain et qu'on le rend acteur de ses décisions, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne réponde pas bien.
Parce que dans ces parcours alternatifs, il y a un joueur qui est chez vous, malheureusement il a été blessé l'an dernier, mais c'est Stéphane Diarra, que moi je trouve vraiment excellent. Moi j'aime beaucoup, hein, parce que j'en ai été un, mais ces parcours alternatifs, c'est quelqu'un qui était un très bon joueur du côté du Mans il y a encore deux saisons. Et ce qu'il fait en Ligue 1, déjà on l'a vu par bribes l'an dernier, mais aussi cette année, je trouve ça vraiment exceptionnel parce qu'il a cette fraîcheur justement et sûrement cette passion du foot. Donc,
Mathieu est avec nous, 32-16. Salut Mathieu, supporter de Lorient.
Bonjour à tous, bonjour coach.
Tu as l'occasion d'adresser à ton coach justement, Régis Lebris, vas-y.
Ouais, déjà bon, je suis hyper content, c'est la première fois que je passe dans l'after et si on m'avait dit que j'allais passer pour parler de Lorient qui est troisième du championnat, j'y aurais pas cru. Donc bravo coach, bravo à toute l'équipe, on est vraiment super content et ça fait pas mal d'années où on galère un petit peu et là franchement on revit. Du coup, ma question c'est plus par rapport à votre parcours coach. Vous êtes maintenant assez connu et réputé, notamment dans le domaine des formateurs. Est-ce que vous avez eu des sollicitations pour entraîner dans un club pro, ou est-ce que vous attendiez de pouvoir entraîner Lorient, étant attaché à ce club? Et du coup, la question derrière tout ça, que tous les supporters vont évidemment se poser, c'est est-ce que vous vous inscrivez dans la durée au SCL, parce qu'on a absolument pas envie de vous quitter.
Merci Mathieu, ça nous évite de la poser. Régis Lebris.
Merci Mathieu. En premier lieu, moi, je reconnais effectivement toute j'ai l'amour des supporters et la ferveur qu'il y a autour de l'équipe en ce moment, mais ça fait déjà, enfin moi ça fait 10 ans que je suis là et que je le constate. Donc je suis très attaché au FC Lorient. J'ai fait ma 11e année dans ce club, donc il y a avant tout l'idée depuis de nombreuses années de construire un projet et de se sentir porté par, je dirais, un collectif. Alors on s'inscrit dans une région, on s'inscrit dans une ville, on s'inscrit dans un pool de supporters, et puis on s'inscrit aussi dans une dynamique de club au quotidien avec un président, Luc Ferry, avec un DG, un directeur sportif, un staff, enfin plusieurs staffs. Et l'aventure collective qu'on est en train de vivre en ce moment, elle a débuté, enfin pour moi, il y a déjà 10 ans et ça n'a pas de prix. Ensuite, ce qui est de l'avenir, aujourd'hui, les choses sont, pour moi, elles sont évidemment extrêmement positives. On sait que dans ce métier, les dynamiques peuvent s'inverser très rapidement. Et on ne sait pas non plus, du coup, de quoi mon avenir professionnel sera fait par rapport à tout ça. En tout état de cause, je ne me projette pas du tout. Et tant que je prends du plaisir avec, je répète, l'ensemble des salariés du club et les joueurs, bien entendu, dans ce qu'on réalise, et en plus on est performant, il n'y a pas de raison aujourd'hui de se projeter sur autre chose.
Thibaut, tu avais une question.
Oui, je voulais savoir, Régis, si tu continuais à faire ce que tu faisais avec la réserve, c'est-à-dire que tu rassembles tous les joueurs dans la salle de cinéma, là, dans la salle où tu as le grand écran, où tu t'assois au milieu d'eux, et tu parlais un peu tout à l'heure des feedbacks que vous faisiez en vidéo. Tu continues à faire la même chose avec les pros, et qu'est-ce qu'il y a de différent avec les jeunes du centre?
Donc on continue à faire exactement la même chose avec les pros, c'est-à-dire de faire en amont des séances toujours une quinzaine, une vingtaine de minutes de vidéos sur soit le précédent match, soit d'autres matchs plutôt rares, soit les futurs qu'on va jouer, et d'avoir des échanges vraiment avec le temps sans concession sur la réalité de notre exercice, c'est-à-dire à la fois s'appuyer sur ce qu'on fait vraiment très bien, c'est souvent assez facile de revenir dessus, et avec le temps aussi de placer l'erreur comme un élément constitutif de notre progression. Donc au démarrage, ça pique un peu, on ne peut pas dire autre chose. Et puis au fur et à mesure du temps, quand l'ambiance de travail est bien posée, cette erreur, on la considère comme constructive. Et donc c'est équivalent par rapport à ce que je réalisais avec la réserve. Alors je suis venu, avec le temps, je suis devenu un peu plus précis, un peu plus, meilleur animateur pour créer un climat de travail encore plus propice. Je dispose aussi de beaucoup plus de ressources avec un staff et... notamment qui m'aident beaucoup pour construire les montages. Et la différence qui se produit à un moment, c'est que finalement, entre des jeunes qui s'initient à la culture du jeu et des joueurs professionnels, c'est que les joueurs professionnels en connaissent plus. Donc finalement, ils interprètent les situations à une vitesse qui est vraiment supérieure. Et je trouve que le groupe avec lequel nous travaillons aujourd'hui, encore, c'est une dimension, d'ouverture que j'espérais et que finalement je constate.
Tu continues à faire les exposés que tu faisais, j'ai raconté ça dans le reportage de SoFoot, où les joueurs venaient, en fait, on leur préparait en amont des séances vidéo qu'eux devaient présenter, et ensuite ils expliquaient aux autres joueurs ce qu'ils devaient faire. Est-ce que tu fais ça aussi avec les pros?
Non, on n'est pas encore arrivé à cette étape-là.
Ça va venir.
Ça existe dans d'autres sports. Enfin, je sais que ça existe en balle dans les meilleures années. Donc, je ne sais pas où notre culture va nous mener. Il ne s'agit pas non plus de faire un copier-coller par rapport à ce qui a été réalisé auparavant.
Très rapidement, moi, j'ai connu un entraîneur qui, lorsque tu étais blessé, donc tu avais un peu plus de temps que ceux qui étaient aptes à s'entraîner, tu devais faire l'analyse. Non, c'était un Belge. Pour le coup, c'était pas une blague. C'est pas une blague. C'est son nom, c'est Marc Brice, et c'est l'entraîneur de.
C'est
moins
une filiation, c'est pour ça.
C'est l'entraîneur de Louvain en Belgique.
Dernière question pour Sofiane.
Oui, coach, je voulais vous poser une question parce que vous me faites penser. J'avais discuté avec Christophe Lelichon d'ailleurs, qui est aussi un parcours breton. Et qui parlait
des gardiens à Rennes puis à Chelsea avec Sech.
Exactement. Et il parlait de sa façon de travailler avec Petr Sech à Chelsea notamment, où il disait qu'il utilisait beaucoup d'autres disciplines. Il parlait du hockey sur glace pour le faire progresser, notamment le trampoline aussi. Et moi, j'aimerais bien savoir, parce que vous êtes aussi un petit peu dans cette idée-là, comment vous utilisez les autres sports pour faire progresser vos joueurs?
Alors déjà dans ma culture personnelle et de devenir un meilleur entraîneur, c'est quelque chose que je réalise depuis plusieurs années maintenant, d'aller questionner dans d'autres disciplines la manière dont ils font pour devenir performants et gagner sur le long terme. On peut gagner une fois par un concours de circonstances, mais quand les choses s'enchaînent et durent, il y a généralement quelque chose de très consistant derrière tout ça. Donc moi ça m'intéresse, et donc en natation, en rugby, en cyclisme, en basket, etc. je me suis beaucoup informé. Après l'utilisation de pratiques autres que celles du football, on en réalise peu chez les professionnels. Ça s'est fait un peu à la formation à certains moments. Mmh. Et puis par ailleurs, il peut y avoir des réflexions sur des techniques, par exemple des blocs, par exemple, qui sont beaucoup utilisés en ce moment sur les coups de pied arrêtés ou sur les touches, sont très développés en basket et peuvent, si on y réfléchit un peu, trouver des éléments de transfert en football. Donc à ce niveau-là, on peut aussi avoir des échanges.
Régis Lebris, merci beaucoup, on s'est régalé à vous Régis. Écouter. Beaucoup de partage, c'est aussi votre philosophie. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe le 6 novembre 2022, Régis, vous savez ou pas?
Non, pas précisément.
C'est le premier duel avec votre rival pour le titre de champion, le PSG. Vous recevez le PSG au Moussoir. Merci encore, Régis Lebris. Merci à Mathieu également.
Merci beaucoup.
On fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux, Mathieu, sur RMC. Je pense qu'on va beaucoup parler de Lorient cette saison. On s'est régalé. On revient dans un instant à la suite de Génération After sur RMC.